Le président ivoirien Alassane Ouattara a décidé de gracier Laurent Gbagbo ce week-end. L'ancien chef de l'État peut désormais se concentrer sur la politique. La présidentielle ivoirienne de 2025 est-elle définitivement lancée le week-end dernier lors des cérémonies commémorant les 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Le président Alassane Ouattara a annoncé avoir signé un décret accordant la grâce présidentielle à Laurent Gbagbo. Un acte fait, selon les mots du chef de l'État, dans le souci de renforcer la cohésion sociale. Lors de l'élection présidentielle de 2020, après la tenue du scrutin, la tension avait été palpable en Côte d'Ivoire et alors que Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale, avait émis son désir de revenir à Abidjan, Ouattara avait créé un poste de ministre de la Réconciliation nationale en décembre 2020. Un an et demi plus tard, donc, la décision d'Ado est plus que symbolique. Tout d'abord, elle participe à cette volonté affichée de la part de Ouattara de réconciliation. Les discussions entre Gbagbo et Ouattara ont, semble-t-il, abouti à cette volonté de la part du palais présidentiel de remettre les compteurs à zéro. Malgré l'annonce d'Alassane Ouattara, cependant, il ne faut pas s'attendre à des actes d'amour entre le président et son prédécesseur. Lors de la grande parade de ce dimanche à Yamoussoukro, Laurent Gbagbo n'était d'ailleurs pas présent, pourtant invité par Ouattara, tout comme Henri Conan Bédié d'ailleurs. Outre son caractère symbolique, la grâce présidentielle écarte aussi tout possible sanction contre l'ancien président Gbagbo. Alors qu'il encourait une peine de 20 ans de prison prononcée alors qu'il était déjà dans les géoles de la CPI, Gbagbo ne risque plus rien en Côte d'Ivoire, même s'il n'avait de toute façon jamais été inquiété par les forces de l'ordre depuis son retour au pays. Financièrement, c'est également un soulagement pour Gbagbo. Il sera, donc selon Ouattara, procéder au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. Et pendant de longs mois, la question de l'indemnité due aux anciens présidents non versés jusque-là donc avait été l'objet des discussions entre les camps Ouattara et Gbagbo. Mais ce qui est important, c'est que Laurent Gbagbo pourra vraisemblablement participer à la prochaine présidentielle de 2025. Après le lancement en octobre 2021 du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et ses lieutenants ont d'ores et déjà affiché leurs ambitions. L'ancien président ivoirien veut toujours compter dans la vie politique de son pays. Entre Ouattara Bédié et Gbagbo, respectivement âgés de 80, 88 et 77 ans, la bataille a débuté par des discussions amicales. Mais l'on devrait rapidement assister à une véritable opposition politique entre les trois hommes. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé dimanche en Afrique du Sud, selon le ministère sud-africain des Affaires étrangères, avant de se rendre en République démocratique du Congo et au Rwanda, une tournée africaine pour tenter visiblement de contrecarrer l'influence diplomatique russe. Cette visite intervient un peu après la tournée africaine du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, qui s'est rendu en juillet donc au Congo-Brazzaville, en Égypte, en Éthiopie et en Ouganda. Et au même moment, le président français Emmanuel Macron se rendait, lui, au Bénin, au Cameroun et en Guinée-Bissau. Depuis le début de l'opération russe en Ukraine le 24 février, l'Afrique du Sud, pays leader au sein des pays en développement, a adopté une position neutre dans le conflit, refusant de se joindre aux appels occidentaux à condamner Moscou. De plus, l'Afrique du Sud est également un farouche opposant à la politique d'apartheid d'Israël en Palestine, qui se bat également pour que Tel Aviv n'entre pas en Afrique. Un point sur lequel Blinken devra certainement manœuvrer, mais stratégiquement parlant, l'Afrique du Sud fait également partie des BRICS. Et visiblement, le dernier forum des BRICS et l'intégration de nouveaux pays au sein de l'organisation sème la panique dans le clan occidental. Et ce lundi, Blinken s'est entretenu donc avec la chef de la diplomatie sud-africaine, Naledi Pandor, et donc ils ont fait des annonces concernant la nouvelle stratégie africaine du gouvernement américain, comme l'a indiqué Pretoria dans un communiqué. Les discussions donc ont abordé les développements récents et en cours donc concernant la situation géopolitique mondiale, a ajouté Pretoria. Selon Fonte Akum, le responsable du think tank Institute for Security Studies, basé à Pretoria, la visite de Blinken va aider donc les États-Unis à comprendre la position de l'Afrique du Sud, mais elle vise aussi à rapprocher l'Afrique du Sud donc du camp occidental. Avec leur nouvelle stratégie africaine, les États-Unis cherchent à accroître les engagements diplomatiques, estime-t-il. L'Afrique du Sud fait partie du groupe des économies émergentes BRICS, aux côtés du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Et en juin, le président russe Vladimir Poutine avait exhorté les BRICS à coopérer face aux actions égoïstes des pays occidentaux sur fond de sanctions sans précédent contre Moscou en raison du conflit ukrainien. Blinken aura pour but de montrer aux pays africains qu'ils ont un rôle géostratégique essentiel et sont des alliés cruciaux sur les questions les plus brûlantes de notre époque, de la promotion d'un système international ouvert et stable à la lutte contre les effets du changement climatique, l'insécurité alimentaire et les pandémies mondiales, comme l'avait indiqué en fin juillet le département d'État. Après Johannesburg, Blinken donc devrait se rendre en République démocratique du Congo puis au Rwanda, en proie à un regain de tension avec son voisin congolais qu'il accuse de soutenir les rebelles du mouvement du 23 mars, ce que Kigali dément. Blinken, donc, séjournera en RDC du 9 au 10 août. Son programme prévoit des entretiens avec des membres haut placés du gouvernement congolais et des membres de la société civile pour discuter de l'intérêt mutuel à assurer la tenue d'élections libres, inclusives et justes en 2023 en promouvant le respect des droits de l'homme et en protégeant les libertés fondamentales. Il se focalisera aussi sur la lutte contre la corruption, l'appui au commerce et aux investissements, les actions visant à faire face au changement climatique, l'accroissement de la résilience agricole et il appuiera les efforts africains régionaux pour promouvoir la paix dans l'est de la RDC et l'ensemble de la région des Grands Lacs. Ce qui dérange donc principalement les États-Unis dans ces pays, c'est bien l'hostilité évidemment de la population congolaise contre la MONUSCO, car l'ONU est une porte d'entrée pour les pays occidentaux dans n'importe quel territoire d'Afrique. Si la MONUSCO quitte la RDC, cela serait donc problématique pour Washington, qui compte, au fond, donc maintenir le désordre dans l'est de la RDC. Évidemment, Blinken est visiblement prêt à condamner Kigali pour son soutien au M23 et demander en contrepartie à Kinshasa de calmer les Congolais par rapport à la présence de la MONUSCO dans le pays. Reste à voir si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Les militants sympathisants de Yerewolo de Boulay-Rampart ont massivement répondu présent à l'appel du mouvement panafricaniste malien au palais de la culture Amadou Ampateba vendredi 4 août. Et seul objectif, réaffirmer la détermination du mouvement à lutter pour le départ de la force onusienne du Mali au plus tard le 22 septembre. Le mouvement a donc rappelé qu'il reste pacifiste jusqu'à la date anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République du Mali. Après la saisie officielle, le 20 juillet, le chef de la MINUSMA, avec une correspondance demandant le retrait de la troupe donc au Mali, le mouvement souverainiste Yerewolo debout sur les remparts a réaffirmé sa détermination lors d'un meeting au palais de la culture Amadou Ampateba. Sur place, donc des centaines de militants avec des drapeaux du Mali et celui de la Russie étaient majoritairement coiffé d'un bonnet bleu avec l'insigne du mouvement Yerewolo, donc debout sur les remparts, pour marquer leur détermination à chasser la mission onusienne hors du territoire du Mali. Au même titre que la force antiterroriste française, Barkhane, la force européenne TASC Takuba, les médias français RFI et France 24, Yerewolo, debout sur les remparts, est résolument engagé pour mettre hors du territoire national du Mali la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. L'ultimatum donné pour cette opération à la date anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République du Mali, c'est-à-dire le 22 septembre. Et d'ici là, de façon pacifique, Yerewolo, debout sur les remparts, instruit à la MINUSMA de prendre toutes les initiatives pour se retirer volontairement du Mali avant cette date. Tout comme Barkhane et Takuba, Yerewolo de Adama Diarra, dit Ben Le Cerveau, reproche à la mission onusienne d'être une force d'occupation qui ravive et entretient la peur, les divisions ethniques et la méfiance entre les communautés au Mali. Malgré une présence de 15 000 hommes déployés sur le terrain, les leaders du mouvement donc estime que le désastre des terroristes ne fait que grandir et affecter les parties du territoire non encore infectées. Donc par conséquent, comme la MINUSMA n'a pas été en mesure de réajuster sa mission en fonction des attentes des autorités et du peuple malien lors du renouvellement de son mandat, Yerewolo estime que la MINUSMA doit quitter le Mali afin de ne pas entraver avec ses nombreux rapports bidons l'engagement et la dynamique actuelle des forces armées maliennes à venir à bout du phénomène du terrorisme. À force de vouloir sortir des rapports fallacieux visant donc à discréditer l'armée malienne, à semer le trouble, notamment entre les communautés au Mali, mais également entre des pays frères comme la Mauritanie et le Mali, la MINUSMA s'est mise toute seule dans une mauvaise posture. Bamako a à plusieurs reprises donc tendu la main pour permettre à la MINUSMA de coopérer donc justement avec le Mali et éradiquer le terrorisme, mais la MINUSMA a opté pour la carte de la déstabilisation du Mali et le renforcement des groupes terroristes. Au Mali, donc, plus personne n'est dupe. Tout le monde sait pertinemment à quoi sert réellement la présence de l'ONU dans le pays, mais également sur le continent. En RDC, les Congolais demandent également le départ des troupes de l'ONU de leur territoire, car après plus de 20 ans de présence, la situation sécuritaire n'a fait qu'empirer. Pareil pour la mission de l'ONU au Soudan du Sud, au Soudan, en Somalie et en Centrafrique. Et ses troupes militaires, comme la présence des militaires français ou américains d'ailleurs, n'ont jamais ramené la sécurité dans un pays, sinon ça se serait déjà vu.
Blinken en Afrique pour contrer la Russie. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken atterrit dimanche en Afrique du Sud avant de se rendre en République démocratique du Congo et au Rwanda, selon le ministère sud-africain des Affaires étrangères, une tournée africaine pour contrecarrer l'influence diplomatique russe. Cette visite intervient peu après la propre tournée africaine du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov en juillet. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février, en quelque sorte, l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, l'Afrique du Sud, pays leader au sein des pays en développement, a adopté une position neutre dans le conflit qui inquiète les États-Unis. Lundi, Blinken s'est entretenu avec la chef de la diplomatie sud-africaine, Naledi Pandor, et a fait des annonces concernant la nouvelle stratégie africaine de gouvernement américain. Les discussions aborderont les développements récents et en cours concernant la situation géopolitique mondiale, avait ajouté Pretoria. Blinken a pour but de montrer aux pays africains qu'ils ont un rôle géostratégique essentiel et sont des alliés cruciaux sur les questions les plus brûlantes de notre époque, de la promotion d'un système international ouvert et stable à la lutte contre les effets de changement climatique, l'insécurité alimentaire, les pandémies mondiales, soit autant de problèmes qu'ont causé à l'humanité les politiques des États-Unis. L'Afrique du Sud semble avoir mis une fin de non-recevoir aux demandes d'adhésion US anti-russe et affirmé son soutien à la politique russe à travers le monde. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a été gracié. Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé samedi 7 août avoir accordé sa grâce à son prédécesseur et ancien rival Laurent Gbagbo sous le coup d'une peine de 20 ans de prison dans son pays après la crise post-électorale de 2010-2011. Dans le souci de renforcer la cohésion sociale, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, a déclaré Alassane Ouattara dans un discours à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses décomptes et au paiement de ses arriérés de ses rentes viagères. Une libération conditionnelle a également été accordée à deux anciennes figures de l'appareil militaire et sécuritaire du régime de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, 77 ans, a a été définitivement acquitté en mars 2021 de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale de La Haye, où il avait été transféré fin 2011. L'ancien président ivoirien, rentré dans son pays en juin 2021, restait néanmoins sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pendant la crise 2010-2011. La crise était née du refus de l'ex-chef de l'État de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara imposée par la France au peuple ivoirien dans le cadre d'un projet visant à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Rappelons que Gbagbo a été arrêté, capturé par la France après une intervention militaire directe visant le palais présidentiel. Gbagbo n'a été reconnu coupable d'aucun crime par la CPI. Au Burkina Faso, le gouvernement a démenti samedi dans un communiqué les informations relayées par la presse locale faisant état de la signature d'une trêve de 2 ans avec les groupes armés qui endeuillent le pays depuis 2015. Le porte-parole du gouvernement burkinabé, Lionel Bilgo, dit avoir découvert avec stupéfaction une publication de certains médias locaux selon laquelle le gouvernement serait en passe, si ce n'est déjà fait, de conclure un deal avec les terroristes pour une trêve de 24 mois qui corresponde à la durée de la transition. Ces allégations totalement infondées a indiqué le porte-parole du gouvernement, soulignant que le gouvernement burkinabé se désole de voir qu'un sujet d'une telle gravité puisse être traité avec autant de légèreté et de désinvolture et que de fausses informations soient ainsi propagées dans l'espace public. Dans l'action du gouvernement de la transition, il ne saurait être question de marchandage sordide ou de deal avec les terroristes pour signer une paix des braves de 2 ans, comme rapporté par la presse, insistait le porte-parole du gouvernement. Pour Bilgo, il s'agit d'affabulation pure et simple, totalement étrangère aux objectifs de la transition qui reste déterminée à pacifier notre pays, à recouvrir l'intégrité territoriale du Burkina Faso pour que vivent sur cette terre de dignité des femmes et des hommes libres, unis et solidaires. Le 28 juillet dernier, le gouvernement burkinabé avait appelé dans un communiqué les citoyens ayant rejoint les groupes armés terroristes à adhérer à un processus de dialogue lancé par le président Paul-Henri Sandaogo Damimba. Pour un Burkina Faso de paix prospère, le ministre en charge de la réconciliation nationale invite les concitoyens enrôlés par les groupes terroristes à saisir l'opportunité, avait dit le gouvernement dans un communiqué. Et enfin, sachez qu'une mission médicale chinoise composée de 22 médecins et de plusieurs spécialistes est arrivée au Bénin, donc dans le cadre de la coopération médicale et sanitaire entre les deux pays. Les médecins exerçant dans des spécialités telles que l'ophtalmologie, la gynécologie, la pédiatrie, l'anesthésie, la médecine traditionnelle chinoise et la pharmacie sont présents au Bénin depuis la soirée de vendredi 5 août 2022. La mission chinoise, la 26e du genre au Bénin, est répartie dans les communes de Lokossa et de Natitingou. Elle s'inscrit dans le cadre de la coopération médicale et sanitaire entre les deux pays. La Chine et le Bénin coopèrent dans plusieurs domaines dont la santé constitue un des piliers importants. Depuis l'arrivée au Bénin en 1978 de la première mission médicale chinoise, ce sont plus de 500 médecins chinois qui ont foulé le territoire béninois et des milliers de consultations médicales et d'opérations offertes à la population béninoise.